Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles qui est reparti pour une nouvelle semaine, c'est lundi. Et justement, ce lundi, Agathe Le Caron recevait tout à l'heure Christophe Beaugrand, le journaliste que vous connaissez très certainement, le journaliste animateur qui est venu nous raconter la naissance de son fils Valentin. Valentin qui a aujourd'hui quasiment 2 ans et Valentin qui est né via un parcours GPA aux États-Unis. Donc une histoire très forte, vous allez l'entendre, pleine d'émotions. Et puis dans la foulée, nous serons avec un psychologue, Emmanuel Graton, qui nous aidera à décrypter et à répondre aux questions que peuvent susciter ce genre de témoignages. On écoute donc Agathe Le Caron avec Christophe Beaugrand et ensuite le psychologue Emmanuel Graton. C'est parti.
Bonjour Christophe.
Bonjour Agathe.
Merci d'être sur le plateau des maternelles. Ai-je besoin de rappeler que vous êtes journaliste, que vous êtes animateur de télévision? En revanche, je peux peut-être préciser que vous êtes le papa de Valentin, parce que c'est la raison de votre présence ici. Il a 2 ans aujourd'hui.
Et Dans un mois.
Dans un mois.
Pas le 9 novembre, attention.
Le 9 novembre, précisément. On pensera à lui souhaiter son anniversaire. Vous venez de raconter dans un livre votre parcours pour devenir papa, fils à papa au pluriel. Ouais. C'est édité chez Plon. Vraiment, je vous le recommande parce que, croyez-moi, ça va ouvrir vos chakras. Et c'est super émouvant. C'est vrai que pour les couples d'hommes, le désir de paternité se heurte d'abord à la loi française, il faut le dire, qui n'autorise pas, je le rappelle, la gestation pour autrui, mais aussi à quelques préjugés. Et j'ai eu l'impression, en vous suivant sur les réseaux, que récemment, vous en aviez eu quand même des retours, vous commencez un peu à communiquer. Est-ce que vous avez des insultes encore
Alors oui, mais vraiment, c'est un tout petit pourcentage.
C'est bien de le
dire. Reçois surtout entre 95 et 98% de messages hyper bienveillants. Et puis, il y a des personnes que ça dérange toujours de voir deux hommes s'occuper d'un enfant. Et effectivement, des insultes peuvent arriver. Mais en même temps, je pense que donner de la visibilité à nos familles, évidemment, c'est important de manière globale pour faire avancer, on va dire, c'est une espèce de banalisation de ces familles-là.
Donc je pense que
exactement, et plus on en parle, à mon avis, moins il y aura de messages négatifs. Il faut faire un travail de pédagogie, je pense.
C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais de toute façon, tous les gens qui nous regardent dans les maternelles sont bienvenus.
Ils sont gentils,
c'est 100%
bon, on va parfait alors.
Vous allez voir. On va revenir en arrière. Vous avez toujours été, Christophe, habité par l'envie d'être père. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ce n'est même pas mon cas, moi, par exemple, pour vous dire. Mais vous disiez, bon, en tant qu'homosexuel, c'est inenvisageable.
J'ai découvert très tôt, quand j'étais vraiment gamin, j'avais 8-9 ans, que j'étais homosexuel. En tout cas, je sentais cette différence-là sans peut-être mettre des mots. Et c'est vrai qu'à la maison, quand j'étais gamin, les valeurs familiales ont toujours occupé une place très importante. Donc, je me projetais papa un jour. Sauf que en me disant, si j'assume mon homosexualité, eh bien, je ne pourrais pas être père. Et c'était une grande angoisse à l'époque. Donc, je pense que cette envie de devenir père est venue de la crainte de ne pas pouvoir justement la réaliser.
Je vois ce que vous voulez dire. Alors, vous avez rencontré Ghislain, qui est votre mari.
Il y a 10 ans maintenant.
Il y a 10 ans, vous aviez 34 ans, ça nous permet de connaître votre âge. Lui, il avait 22 ans. Est-ce que lui, à 22 ans, était prêt à entendre cette envie de paternité?
Alors, on en a parlé assez naturellement au début, mais évidemment, non, il n'était pas prêt. Il n'était pas encore prêt. J'ai attendu, effectivement, qu'il soit prêt pour qu'on se lance dans cette aventure-là, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, entre guillemets, contraint et forcé. Je lui ai jamais mis la pression, parce qu'il faut vraiment en avoir envie, notamment quand c'est un parcours aussi compliqué que celui de la gestation pour autrui.
Vous avez hésité avec l'adoption à un moment
On y a pensé, on y a réfléchi, on s'est renseigné, mais l'adoption pour les couples homosexuels, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est quasiment impossible. Donc il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant « Mais pourquoi vous avez fait un enfant avec une mère porteuse? Pourquoi vous n'avez pas voulu aider un enfant malheureux, etc. ?» Mais si on avait pu, mais évidemment qu'on l'aurait fait. Il y a très peu d'enfants adoptables en France. Déjà, c'est très compliqué pour les couples hétérosexuels. Et il faut dire la vérité, pour les couples homosexuels, ils sont en bas de la pile, les dossiers des couples homo.
Donc, alors à l'étranger, on en parle même pas.
À l'étranger, pour la plupart des pays, c'est fermé, en fait. Pour les couples homosexuels à l'étranger ou les hommes célibataires, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça commence à avancer, mais au moment où on a commencé nos démarches, il y a 5 ans maintenant, pour notre petit garçon, pour le coup, il y avait très peu d'enfants qui étaient confiés en France à des couples homo. Mais voilà, les choses avancent. J'ai eu des témoignages, donc je me dis que, voilà, en parler aussi, ça contribue à faire bouger les mentalités, y compris des conseils de famille qui, comme ça, confient des enfants.
Alors, quand, du coup, obligé de faire, en tout cas, vous vous tournez vers la GPA.
Bah, c'est à peu près la seule solution, qui nous est offerte,
quand
effectivement.
Même. Par quoi on commence quand on, décide d'entamer ce parcours? Parce que, en France, il n'y a pas de, référence.
Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de site internet qui vous explique, qui vous raconte. Et quand on cherche justement un peu sur, Google, on se rend compte que c'est très. C'est très touffu, c'est très vaste. Il y a plein de choses plus ou moins clean qui existent. On trouve des sites internet un peu louches. Et finalement, on a avancé beaucoup grâce au bouche à oreille, sur des forums de discussion, grâce à des amis. Et on comprend que pour un couple homosexuel, il n'y a que deux pays où on peut réellement réaliser une gestation pour autrui dans le respect des femmes, dans la légalité la plus totale, avec une assurance juridique que tout se passe bien, et médicale aussi, évidemment. C'est aux États-Unis ou au Canada. Donc, nous avons pris contact avec une agence, parce qu'il y a des agences dans ces pays, qui accompagnent les parents d'intention, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, via une agence, là, on a pu avancer sur ce projet aux États-Unis.
Et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle de la GPA éthique.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne aussi qu'il y a des GPA qui ne sont pas forcément éthiques.
Exactement, il y a des choses qui existent où des femmes sont contraintes, sont des femmes dans la misère, etc. Ce n'est pas ça du tout qui se passe aux États-Unis. On passe par des agences qui sélectionnent des donneuses d'ovocytes et des mères porteuses. Il faut savoir que ça n'est jamais la même femme. Il y a toujours deux femmes différentes, une qui donne ses ovocytes et l'autre qui va porter votre bébé. Mmh. Et donc, elle n'a aucun lien génétique avec ce bébé. Ce sont des femmes qui ont des bons revenus. Ça, c'est important. Il ne faut pas que l'argent soit une motivation. Donc, quand on lit sur Internet, vous avez utilisé une femme dans la misère, c'est pas vrai, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Whitney, en l'occurrence, la maman de ses trois filles et qui a porté notre petit garçon et qui a été la femme qui a porté notre bébé, ils sont propriétaires d'une maison avec un jardin, ils ont deux voitures, ils ont une vie, tout va bien. Hein, voilà. Et par contre, elle avait cette envie-là en elle. Et il faut comprendre aussi que ce sont les femmes qui choisissent les couples de papa ou les couples hétérosexuels avec lesquels elles font ce genre de...
On leur impose rien.
Exactement. Ce sont elles qui choisissent. En fait, on est en discussion, on a eu des discussions Skype, on a parlé avec cinq femmes. Elle, Whitney, avait parlé avec quatre autres couples. Et puis, elle nous a choisis parce que le feeling est passé. Mais ce sont toujours les femmes qui ont le dernier mot. Et puis, dans une GPA éthique, il y a évidemment une garantie juridique pour que tout se passe dans le respect de tout le monde.
Encadré.
Il y a des avocats qui rentrent en ligne de compte.
Ce qui est important, c'est de retenir que c'est un geste altruiste pour ces femmes et que c'est aussi très encadré, évidemment, que ce n'est pas fait n'importe comment, que ça prend du temps, etc.
Après, il y a un coût. Il y a un coût qui vient du
bien
fait
sûr.
Essentiellement
et donc une injustice.
Du côté médical. Parce qu'aux États-Unis, c'est très très cher, bien sûr.
Alors,
le côté médical, pardon.
Un tout petit peu plus d'un an, je crois, après le début des démarches, vous allez recevoir un coup de fil qui va tout changer.
Ouais.
Racontez-nous ce coup de fil.
Oui, c'est vrai que on a commencé les démarches et puis on a fait notre don de sperme aux États-Unis. Il y a eu la création d'embryons et puis il y a eu le transfert d'embryons à Whitney. Et là, il faut attendre à peu près une quinzaine de jours pour savoir si ça a fonctionné, si le transfert d'embryons a fonctionné. Et là, il se trouve que le soir où on devait avoir ce coup de fil en vidéo, moi j'étais en tournage pour Ninja Warrior, l'émission de TF1, et du coup ça tombe au plein milieu du tournage de l'émission. Donc mon mari, lui, est à Paris, Whitney est à Las Vegas avec son mari, moi je suis à Cannes en train de tourner une émission, et là je dis à Denis Brognard qui anime l'émission avec moi, je suis désolé, là il faut que je m'arrête deux minutes, il y avait un candidat qui devait passer, c'est un jeu, et du coup il y avait le producteur qui gueulait en régie en disant « mais attendez, il y a quelqu'un qui passe », etc.
Fred, si tu nous regardes.
Exactement, Fred. Et là, Denis Brognard l'engueule un petit peu, il dit « ah non, il se passe quelque chose de très important, il faut leur laisser cinq minutes », et là effectivement il y a Whitney qui nous annonce la bonne nouvelle et qui nous dit cette phrase: We are pregnant. Voilà, nous sommes enceintes.
Mmh, et, voilà,
et ça, j'en ai encore. À chaque fois, j'ai la chair de poule parce que ça a été un moment incroyable dans notre vie.
Est-ce que vous avez réussi à vous projeter en tant que papa pendant la grossesse? C'est toujours un sujet, quelle que soit la façon dont on devient papa.
Beaucoup d'amis hétéros me l'ont dit aussi, qui se sentent parfois un petit peu exclus. Hein, il suffit pas de... parce que c'est difficile de comprendre ce qui se passe concrètement. Mais effectivement, nous, on était en plus à des milliers de kilomètres. On est allé une fois en voyage pendant la grossesse, au moment des 5 mois. Donc, on a fait l'échographie en 3D pour les 5 mois. Oui. C'était assez rigolo, d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas vraiment dit un bébé. Hein. L'échographie en 3D, ça ne marche pas à tous les coups.
Généralement, ils sont collés contre la paroi de l'utérus. Et il ressemble à rien, mais c'est pas grave.
Mais il était très beau, hein. Il était très beau quand même. Et puis surtout, on a tout au long de la grossesse eu des nouvelles. Elle nous envoyait des vidéos très régulièrement. Et puis nous, on envoyait des petits messages vocaux. On enregistrait sur le téléphone portable des petits messages pour que déjà notre bébé entende parler français et qu'il entende nos voix. Et on lui racontait déjà son histoire. In utero. Moi, je me rappelle, je lui envoyais des messages en disant, voilà, on était deux papas, on est à quelques millions de kilomètres. Il y a une dame très gentille qui te fait grandir dans son ventre et on sera là quand tu sortiras, quand tu arriveras, on sera là pour te tenir dans les bras.
Du coup, ça lui a donné envie de sortir plus tôt, d'après ce que j'ai compris.
C'est ça, avec trois semaines et demie d'avance. Et du coup, on était censé venir aux États-Unis deux semaines avant, donc on a eu un coup de fil. Et là, de Whitney qui nous dit, écoutez les garçons, je sens des contractions, je sens que ça va pas tarder. Et là, du jour au lendemain, on passe des coups de fil, on trouve un billet d'avion au dernier moment, on boucle la valise. On avait déjà prévu la valise bébé avec les bodys, les couches, etc. On était hyper organisés. Notre valise à nous n'était pas prête, donc on a pris n'importe quoi et on est parti du jour au lendemain. On est arrivé le jeudi et il est né le vendredi soir.
Alors, ce vendredi soir, la rencontre avec Valentin, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes tout de suite senti père?
Oui, alors c'était assez incroyable parce qu'on se retrouve dans la salle de travail, dans la chambre, avec les médecins, les infirmières évidemment, mais avec Ghislain, moi, Whitney, Jacob, son mari, tout le monde est réuni. C'est une espèce de réunion d'amour vraiment autour de ce projet. Et puis là, ça a été très rapide en fait. C'était son quatrième enfant, elle avait eu trois bébés avant. Ça a été très rapide. Et quand tu vois, on a vu notre petit bébé arriver, on l'attendait depuis tellement de temps. Et je me rappelle, on l'a posé sur le ventre de Whitney. La docteure nous a dit, mais allez-y, vous pouvez le toucher. Il s'est accroché tout de suite, elle a accroché ses petits doigts aux miens. Et je me rappelle, il a pleuré, on attendait le cri. Et je me rappelle surtout du moment où Ghislain, lui, s'est effondré dans les bras de Jacob pour le remercier, parce que c'est le mari de Whitney qui l'a accompagné tout au long de ce périple. Et puis moi, je me rappelle effectivement d'être tombé dans les bras de Whitney en lui disant, mais tu imagines pas à quel point t'as changé notre vie, t'as illuminé quelque chose. C'est incroyable le don de soi qu'a fait cette femme. On ne pourra jamais la remercier. Et quand je lis, j'ai reçu des messages encore ce week-end en disant, vous devriez avoir honte, vous esclavagisez des femmes. Mais dire que cette femme a été une esclave, alors que c'est une femme qui a été une bonne fée incroyable dans notre histoire et avec qui on a gardé le contact aujourd'hui, elle fait partie de la famille. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai envie de faire comprendre avec ce livre, en fait. Vraiment. Que c'est une histoire d'amour. Alors oui, bien sûr, il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte parce qu'un accouchement aux États-Unis, c'est 20 000 dollars, par exemple. Il faut payer des avocats pour être sûr que tout se passe bien. Mais c'est une histoire d'amour entre deux familles et les liens qu'on va avoir avec cette famille, ils se distendront jamais. On continue de parler. Toutes les semaines, on s'envoie des messages, des vidéos.
Elle fait partie intégrante de la vie de Valentin.
Il devait venir en France, et avec le Covid, ça n'a pas été possible. On les avait invités, mais on espère que l'été prochain, ce sera possible. Ils viendront en vacances à la maison, parce que c'est un peu les cousins d'Amérique. Ils font partie de la famille, vraiment.
Alors, bonjour Emmanuel Graton, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes psychologue, sociologue, clinicien, enseignant-chercheur et maître de conférences, vous dormez de temps en temps, dans le département à l'université d'Angers. Est-ce que ces enfants, les enfants issus de familles homoparentales, se rendent compte qu'ils ont une famille différente? Et si oui, à partir de quel âge est-ce qu'ils en prennent conscience, à votre avis?
D'accord, oui, c'est sûr que tout enfant, quand il naît, il grandit dans une famille, il ne connaît pas forcément les différences avec les autres familles. Et donc, c'est à l'école, souvent, qu'il s'en aperçoit, lorsqu'il est avec ses camarades, etc. Il peut s'apercevoir, tout d'un coup, que sa famille est un peu atypique. Il en prend conscience, ça dépend un peu des enfants, mais généralement, vers 4-5 ans, il a à peu près conscience, effectivement, qu'il est dans une famille un peu différente des autres.
Et ce qui peut être plus ou moins douloureux, c'est justement les réactions des autres enfants.
Oui.
J'ai l'impression que moi, il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire de plus en plus. Christophe parlait beaucoup des réseaux sociaux où il reçoit des remarques négatives. J'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui sont plus ouverts que sans doute nous quand on était enfants sur ces questions.
Oui, probablement. Disons qu'il peut y avoir quelques moqueries qui peuvent arriver en primaire, etc., qui peuvent même s'intensifier parfois au collège. Mais que souvent, ces enfants apprennent à se défendre aussi et à défendre leurs parents et à se défendre eux-mêmes.
Ils ont un cuir solide. On a reçu une question pour vous de Nicolas Faget. Nicolas Faget, c'est le porte-parole de l'association des parents gays et lesbiens. Regardez.
Bonjour Nicolas, 38 ans. On nous pose souvent la question de la répartition des tâches au sein du couple, et je réponds souvent qu'on peut apporter autant qu'un papa, une maman, que les fonctions paternelles et maternelles se répartissent chez n'importe qui. Qu'est-ce que vous observez comme tendance, vous, dans la répartition des tâches domestiques au sein de couples de même sexe ?
La répartition des tâches, en fait, dans les témoignages que j'ai eus, elle se fait de façon assez naturelle en fonction des goûts et des compétences de chacun. En fait, dans un couple hétéro, souvent, il y a des rôles un peu assignés, en fait, à la femme et à l'homme, alors que dans un couple homosexuel, la répartition, elle va se faire, elle doit se faire. Si un enfant pleure la nuit, il faut que quelqu'un se lève, on est bien d'accord.
Oui.
Et donc, ça va peut-être être en fonction de celui qui va être le plus en forme. Mais il peut y avoir aussi, au bout d'un certain temps, une forme de répartition des rôles qui s'établit, parce que c'est plus simple aussi.
C'est presque plus simple, parce que les rôles, du coup, ne sont pas ancrés. Ce n'est pas monsieur le bricolage et madame la cuisine, dans le gros cliché qu'on peut savoir. Et du coup, à la limite, chacun fait en fonction de ses goûts.
Voilà, chacun fait en fonction de ses goûts. Alors, parfois, il faut négocier un peu, parce qu'on peut avoir les mêmes goûts.
Oui, on peut tous les deux ne pas aimer se lever la nuit.
Et voilà, exactement.
Une question de Sophie qui vous demande s'il existe des études sur l'homoparentalité et son influence sur la trajectoire développementale de l'enfant.
Ah là là, des études, il y en a énormément, en fait. Il y en a plus d'une centaine. Elles ont été recensées, en fait, par... des collègues à moi qui s'appellent Olivier Véchaud, Benoît Schneider, dès les années 2005, en fait. Donc, les études étaient plutôt nord-américaines et puis de l'Europe du Nord également.
Et en France,
il y en a eu. Et on en a conduit, nous, depuis un certain nombre. Elle conclut tout un petit peu à la même chose, en fait. C'est qu'il n'y a pas de différence significative. On peut toujours repérer quelques petites différences, mais il n'y a pas de différence significative entre des enfants qui sont nés dans un contexte hétéro ou dans un contexte homo. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Alors certains sont un peu alarmistes, ils disent que ça va peut-être arriver plus tard, peut-être une autre génération, etc. Bon, je pense qu'il faut être raisonnable et puis entendre que en tout cas, à ce jour, on n'a pas de différence significative.
Serge Effet, sur ce plateau, disait même qu'il y avait certaines études qui montraient que les enfants étaient même plus épanouis parce qu'il y avait un tel désir d'avoir ces enfants et qu'ils étaient plus suivis par des psys, qu'ils étaient plus entourés. Donc, ça tend quand même à dire que tout va bien.
Oui, d'accord.
Lorraine vous demande, est-ce courant que les couples gardent contact avec la mère porteuse et même avec la donneuse d'ovocytes ?
Alors ça, c'est un peu une particularité des couples homo, en fait. Qu'il y a justement un maintien du lien avec la mère porteuse très souvent. Alors quand on dit la mère porteuse, c'est celle qui a porté l'enfant, on est bien d'accord. Christophe nous a expliqué qu'il y avait une donneuse d'ovocytes et puis que d'autre part, il y avait une femme qui portait l'enfant. Et le maintien des liens s'opère, et ça c'est vrai pour toutes les études internationales que j'ai pu lire sur la question, il y a un maintien du lien dans ce contexte-là qui est très très fréquent. Alors beaucoup plus avec celle qui a porté l'enfant qu'avec la donneuse
de vos pendant 9 mois, ils sont en contact quasi quotidien, j'imagine.
Il y a un lien, un lien qui se crée,
De vivre l'accouchement tous ensemble, forcément,
bien sûr.
Ça crée des liens.
Ça rapproche,
bien sûr.
Raphaël vous demande qu'il s'agisse d'une PMA, d'une GPA ou d'une adoption, quand et comment parler de ses origines à un enfant.
Alors là, ça, c'est une grande question. Comment ? Alors, c'est vrai qu'il
Christophe
faut attendre...
Christophe disait que des in utero, il lui racontait son histoire. Est-ce qu'il faut commencer comme ça et
Oui, en fait, c'est ce qui serait sans doute le plus naturel. Ça serait effectivement d'expliquer son histoire. Mais peut-être sans surajouter non plus, je pense. En fait, il faut aussi que l'enfant soit un peu prêt, finalement, à entendre le récit de son histoire. Mais c'est vrai que plus c'est fait tôt, à la limite, et plus ça va être intégré. Ce qui ne va pas empêcher forcément un enfant... à 5 ans, à 6 ans, et même à 10 ans, et peut-être à 15, de revenir sur son histoire à un moment donné.
De poser des questions un peu différentes.
Voilà, exactement.
On a déjà reçu énormément de questions pour vous. On va direct dans le dur avec cette question d'Aurélie qui vous demande si, selon vous, la GPA peut vraiment être éthique.
Elle peut l'être, mais à des conditions bien particulières. La première, c'est que la motivation de la femme doit être... doit consentir pleinement et d'être éclairée, ça c'est tout à fait important. Peut-être une deuxième, c'est qu'elle ne doit pas subir de pression non plus. C'est vrai que certaines gestations pour autrui, à partir du moment où il y avait un enjeu important, financier, etc., pouvaient créer une sorte de pression sur les conditions de la maternité. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément tout à fait important à prendre en compte.
Concrètement, le couple pourrait exiger de vivre la grossesse d'une certaine manière, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, par exemple, on pourrait exiger de la femme qu'elle prenne aucun risque, qu'elle arrête de vivre.
Qu'elle arrête de faire du sport, je crois.
Exactement.
On a des exemples comme ça.
Exactement.
Mais c'est contractuel, c'est ça, du coup. Ça devient contractuel, ces choses-là, a priori.
Oui, Effectivement, mais je pense qu'il y a une limite, quoi. En
fait. D'accord. Oui, oui, c'est voilà. Ça. C'est quand même, elle fait un geste altruiste. Il faut qu'elle soit libre de vivre absolument. La grossesse comme elle le souhaite.
C'est-à-dire à peu près de la même façon qu'elle l'aurait vécu si c'était elle-même.
Marie vous demande qu'en est-il du fameux complexe d'Œdipe dans les familles homoparentales.
Ah, ça c'est la grande question. Le complexe d'Œdipe, la scène primitive. Bah, disons que. J'ai suivi, moi, des études, en fait, plus récentes qui ont été faites sur le sujet. Et en fait, il faut bien distinguer les sexes des fonctions, en fait, des fonctions paternelles et maternelles. En fait, le complexe d'Œdipe, on le vulgarise d'une certaine façon, mais dans les faits, il s'opère, je dirais, sans forcément... Ce qui est important, c'est qu'il y ait une fonction paternelle, effectivement, qui soit exercée, mais elle peut être appliquée par différentes personnes, en fait, pas simplement par la personne du père, qui serait le père biologique de l'enfant, etc. On a affaire véritablement à quelque chose de beaucoup plus complexe, en fait, justement.
Vincent vous demande comment armer les enfants contre d'éventuelles remarques ou moqueries sur leurs parents.
Ça, on peut difficilement prévenir de tout non. ça. Je pense que si ça arrive, il faut le faire comme si c'était pour d'autres types de moqueries. Il faut que ça puisse être régulé un peu par les adultes. Voilà, comme on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de harcèlement. Hein. C'est pas le seul sujet, effectivement, pour lequel il peut y avoir des
en
moqueries.
En fait, n'importe quelle singularité peut faire subir ce genre de harcèlement.
Et même sans singularité, d'ailleurs.
Oui, même sans singularité.
Oui, parfois. Oui, c'est...
Mais alors, tout à l'heure, je vous disais que j'avais l'impression que la nouvelle génération était plus ouverte que la nôtre. Je vous explique pourquoi. Ce week-end, j'en parlais avec l'un de mes enfants qui me disait que dans sa classe, il y a un couple de deux hommes qui ont un enfant. Oui. Avant, ce couple était hétéro et maintenant, un couple homo. Et je disais donc à ma fille, est-ce qu'il y a eu des réflexions? Est-ce qu'il y a eu des moqueries? Est-ce que certains se sont moqués? Et elle m'a dit, non, pourquoi? Et en fait, sa réflexion de pourquoi je me disais, pour elle, c'est complètement normal, parce qu'il y en a de plus en plus.
Oui, et puis je pense que la connaissance, le fait de rencontrer des enfants qui sont dans cette situation, fait que ça les banalise un peu la situation aussi, en fait. Et au final, moi, je vois aussi, du côté, moi, j'ai des étudiants plutôt en face de moi, ce sont des sujets qui sont très souvent frettés. Il n'y a plus de tabou, véritablement, sur ces questions.
Vous n'êtes pas à Paris, en région parisienne, il me
non,
semble.
Non, non.
Et c'est pareil en province, du coup ?
Oui, enfin, je suis dans une ville aussi. Ça peut être peut-être un peu différent, alors, vraiment.
Mais c'est pas ça, justifie. Voilà, c'est-à-dire les grandes villes, on est peut-être plus habitués que...
Vous avez l'électricité chez vous ?
Voilà, je suis sûre. Non, mais je pense que selon où on habite, quand même, quand on habite en campagne, par exemple, c'est pas la même histoire.
Oui, il peut y avoir, effectivement...
Mais peut-être le fait qu'on en parle, nous, ça change aussi peut-être un peu.
Oui, ça se banalise quand même un petit peu. Et puis, il y a d'autres différences, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'homoparentalité. La famille, dans son ensemble, a changé beaucoup. Il y a des familles recomposées, etc.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'au bout du compte, il y a un enfant sur deux, pratiquement, qui est dans une situation qui peut être atypique, en fait.
Alors, Manu vous demande, les enfants élevés par deux hommes recherchent-ils des figures féminines et les enfants de couples de femmes, des figures masculines? Est-ce qu'ils les recherchent?
Disons que la société offre des figures féminines quand même assez... Les maternelles, par exemple. Donc, il y a quand même là... Il y a des signifiants, il y a des mots. En fait, pour les couples gays, notamment pour les jeunes enfants, ils vont aller à la crèche, ils vont avoir quand même beaucoup de figures féminines, en fait. Vous voyez, peut-être plus à la limite. Dans l'autre sens aussi. Et souvent, les parents se soucient. Souvent désigner quelqu'un qui va être de l'autre sexe, parrain, marraine, etc., qui va avoir une certaine fonction auprès de cet enfant.
Et l'émission a été créée en 2001. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on l'appellerait ça les maternelles.
Oui, peut-être, oui.
Elle a 20 ans.
D'ailleurs, il y a un débat pour débaptiser l'école maternelle.
Oui.
C'est vrai ?
Oui, et pour l'appeler l'école, je ne l'ai plus.
Maternelle.
L'école des parents. Les enfants élevés par un couple homosexuel souffrent-ils du regard porté sur l'homosexualité de leurs parents ?
On l'a un peu évoqué.
Ouais.
Alors, soit effectivement, ils peuvent l'intérioriser, en souffrir un peu, être un peu du côté de la plainte, ou alors ils peuvent être aussi du côté de la revendication. Ils peuvent aussi épouser finalement la forme...
Les enfants armés, vous disiez.
Oui, voilà. Ils sont préparés un peu. Leurs parents les préparent aussi, effectivement, à ça.
Au moment de la manif pour tous, c'était vraiment très difficile pour les enfants issus de couples homoparentaux.
Oui.
Parce que là, ils devaient, du coup, effectivement, être en retrait, soit... Revendiquer, évident.
Oui. Il y a une aspiration, en fait, un peu à la norme, en fait, malgré tout, quoi. Je pense à une petite fille, par exemple, vous voyez, qui était en situation de coparentalité, donc qui avait bien un père et une mère. Et en fait, quand les parents de ses camarades ont divorcé, ils étaient séparés aussi, un petit peu comme dans sa situation. Et finalement, elle se retrouvait finalement dans une situation qu'elle considérait comme ordinaire à partir de ce moment-là.
Maximilien vous demande qu'est-ce que ça fait pour un fœtus, je regarde Anna parce que quand elle entend fœtus, ça, de grandir dans l'utérus d'une femme qui sait qu'elle ne le gardera pas et qui évite de s'attacher à lui.
Je ne sais pas, si c'est peut-être...
Comment savoir ?
Ouais, comment savoir, oui.
Comment savoir ? Alors là,
vous ne savez pas ça, Anna, non ?
On sait qu'il y a quand même des liens d'attachement, effectivement, qui se créent. Et
En tout cas, moi, c'est un vrai sujet. Et oui. Je pense que c'est important de dire que c'est normal que ça pose question.
Oui.
Voilà, je veux dire, après, quand on voit l'histoire de Christophe, ses deux papas, ils mettent tout le monde d'accord, etc. Mais c'est vrai que ça pose question. Parce que, après, il racontait qu'il avait enregistré sa voix. J'imagine que ça compte aussi. Ça fait partie de l'épigénétique, comme on dit.
Mais c'est pas qu'une question de volonté, quoi. En fait, il y a aussi la question du corps, il y a la question du lien. Enfin, voilà. Donc, je pense que on a affaire à quelque chose là qui, voilà, dont on peut pas tout savoir, tout maîtriser, mais que, je sais pas comment dire.
Enfin, on voit bien que ces enfants, dans l'ensemble, vont bien, quoi.
Oui, oui, absolument.
Je crois que c'est le seul curseur. Ouais.
Vous pensez que la GPA sera un jour à terme légalisée en France, ou on en est encore très loin?
Ouais, je pense qu'elle le sera, mais peut-être pas tout de suite quand même. Hein. Oui, parce qu'on voit bien qu'entre la PMA et la GPA, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux éthiques. Hein. Justement, la commission sur l'éthique concernant la GPA, il ne peut pas vraiment y avoir de discussion aujourd'hui. Il y a des positions qui sont beaucoup trop tranchées, beaucoup trop opposées en fait, pour véritablement avancer. Il faut que le débat il devienne un peu plus serein, qu'on puisse poser les choses à plat.
Et on en est loin, effectivement.
Voilà, et on en est encore loin.
Même si ça s'est beaucoup apaisé sur le mariage pour tous, justement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de débat dans la société.
Oui. Bah, disons qu'on voit qu'il y a quand même une évolution. Il y a eu le PACS en 99, il y a eu le mariage pour les personnes de même sexe et la possibilité d'adopter en 2013. Il y a la loi aujourd'hui sur la PMA et donc la possibilité pour les couples lesbiens et les femmes célibataires. On voit bien que l'étape suivante, ça va être la question de la GPA, c'est sûr. Mais peut-être pas tout de suite.
Ah, on va avoir des bons débats à la télé, là, je pense.
Oula. Mettez-vous d'accord sur qui pose la question, parce que vous vous regardez avec un petit air de chien battu, les deux.
Alors, d'après vos études, Jérémy vous demande, d'après vos études, la question du genre ou de la sexualité est-elle plus vive pour les enfants de familles homoparentales à l'adolescence ? Est-ce qu'il y a eu des études déjà là-dessus ?
Non, je pense pas qu'il y ait eu d'études spécifiques. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'orientation sexuelle des enfants qui sont nés dans un contexte homoparental. Et c'est vrai qu'il y avait une étude qui m'avait un petit peu marqué. Elle se passait justement à Los Angeles, dans un quartier gay. C'est-à-dire que la norme, quasiment, c'était plutôt qu'il y ait une majorité de familles. Et en fait, le jeune en question, il était hétéro, quoi. Vous voyez ? Donc, il se disait, c'était lui. Il se trouvait finalement un peu en décalage avec l'environnement dans lequel il était. Non, je pense que les questions de sexualité, elles n'ont pas à voir directement avec le type de parents que l'on a. Ça se joue ailleurs.
Les études ne montrent aucune surreprésentation d'homosexualité chez les enfants.
Non, mais sans doute qu'il y a un questionnement plus accru chez eux de ces questions-là, effectivement.
Une ouverture aussi.
Une ouverture. Et sa tendance un peu à diffuser, d'ailleurs, dans toute la société, me semble-t-il. Aujourd'hui, les questions trans, par exemple, se trouvent davantage posées qu'elles l'étaient il y a 20 ans, ça c'est sûr.
Faut-il raconter à son enfant les conditions de sa conception ? La rémunération, notamment, nous demande Bérénice.
Oui, alors, il faut raconter l'histoire. Comme tout enfant a le droit de connaître l'histoire qu'il a, ça c'est sûr.
La rémunération, peut-être pas tout de suite.
Alors, la question de la rémunération, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une rémunération, d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait...
C'est un
dédommagement. Et puis, c'est vrai que le coût est important. Le coût pour une GPA aux États-Unis, c'est de l'ordre de 100 000 euros. Mais ça comprend l'agence, ça comprend les soins médicaux, ça comprend, etc.
L'aspect juridique aussi.
Et en fait, la femme est indemnisée parce qu'elle consacre finalement 9 mois de son existence quand même à cette affaire.
Mais ce n'est pas 100 000 euros pour elle. Ça
non, ce n'est pas 100 000 euros pour elle.
Déjà, Christophe le disait, rien que d'accoucher aux États-Unis, c'est 20 000 dollars.
Oui. Donc c'est vrai que c'est pas pour toutes les bourses non plus.
Bien sûr.
Et moi, lorsque j'ai fait mon travail, c'était en 2006, j'avais simplement que deux situations de ce type-là. Et aujourd'hui, c'est plus fréquent parce que finalement, la coparentalité est moins fréquente, puisque les femmes peuvent accéder aussi finalement d'une autre façon à la maternité.
Alors Marion vous demande si ça peut arriver que les enfants de la gestatrice, les précédents enfants, en fait, ne comprennent pas qu'elle puisse se séparer de l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois.
C'est plutôt l'enfant qui peut ne pas comprendre pourquoi sa mère ne l'a pas gardé, vous voyez, dans l'autre sens, je dirais.
Mais ceux qui sont déjà là et qui sont ses enfants, ils ne peuvent pas se dire, mais attends, pourquoi tu ne le gardes pas ?
Dans les exemples que j'ai rencontrés, ça ne s'est pas posé comme ça.
Parce que je pense que les choses sont dites et claires dès le début.
Oui.
Voilà, merci beaucoup à Emmanuel Graton d'être venu nous voir ce matin. Et merci infiniment à Christophe Beaugrand pour son témoignage. On se retrouve, nous, demain, dès 9h25, sur France 2. N'importe quoi avant sur les réseaux sociaux et bien sûr en podcast. N'hésitez pas, il y a le choix. À demain. Ciao.